Bonjour. Ce matin, nous allons continuer donc dans Philippiens 2. On va rester un peu plus longtemps sur le sujet de l'égoïsme, l'égocentrisme. Et on va voir qu'il y a plusieurs types d'égocentrisme. Il y a l'égoïsme ou l'égocentrisme fondamental, l'égoïsme relatif. Il y a les divers degrés d'égoïsme. Et ce matin, nous allons considérer cela dans la suite de ce qu'on disait la semaine dernière. Philippiens chapitre 2, en contraste avec les personnes qui vivaient une vie de sacrifice pour le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul mentionne ici au verset 21 et 22 quelque chose qu'on va lire ensemble. Dans son désir d'envoyer quelqu'un aux Philippiens pour s'informer de leur état, il dit qu'il envoie en fin de compte Timothée, son bras droit, qu'il aurait voulu garder avec lui, mais il l'envoie pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre. 20 et 21. Philippiens 2, 20 et 21, ensemble on va lire. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as eu le mal, tu aimes le bien. Tu as eu l'égocentrisme, Seigneur Dieu. Tu nous as tous créés à ton image, Seigneur Dieu. On est nul d'entre nous, sommes vraiment le centre du monde, Seigneur Dieu. On est un parmi 7 milliards de vivants que tu aimes en ce moment, parmi tous ceux qui sont déjà passés avant nous, Seigneur Dieu. Et tu veux qu'on comprenne notre place. Tu nous aimes. Autant que notre voisin à côté de nous. Seigneur Dieu, tu veux qu'on ait à cœur toutes les personnes que tu as créées, autant, Seigneur Dieu, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, parce que c'est toi, le Dieu, qui nous a créés. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses, Seigneur Dieu. C'est toi qui as tout créé pour qu'on puisse être en relation avec toi. C'est nous qui avons péché contre toi. Et toi, dans ta grande bonté, tu nous as révélé qui tu es, Seigneur Dieu, et ta haine pour le péché. Et les conséquences du péché, c'est toi qui as pourvu un moyen de salut parfait en Jésus, Seigneur Dieu, qui a été venu sur la terre pour vivre une vie de sacrifice, Seigneur Dieu, pour se donner en sacrifice ultime, de donner sa vie pour notre âme, Seigneur Dieu. Merci pour ces vérités que nous proclamons, et on te prie que tu puisses m'aider à bien proclamer droitement ta parole, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 47, on va lire Ésaïe 47 avant d'aller plus loin, parce qu'Ésaïe 47 nous parle vraiment de l'égoïsme fondamental, l'esprit ultime de l'égoïsme, personnifié ici dans Babylone. Ésaïe 47, versets 7 à 11, Dieu qui confronte Babylone dans son égocentrisme sur stéroïdes, son égoïsme pas à peu près. Ésaïe 47, page 552, Ésaïe chapitre 47, versets 7 à 11. Versets 7 à 11. Et si vous voulez me joindre aussi dans cette lecture, vous pouvez. On va lire ensemble ceux qui veulent lire avec moi. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, « Moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, Moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Avez-vous remarqué le refrain? Moi et rien que moi. L'égoïsme, l'égocentrisme, moi et rien que moi. Babylone se confiait dans sa méchanceté, dans ses sortilèges, dans toute sa sagesse et sa science, pensant être plus sage que tout le monde, pouvant vaincre tout le monde, pouvant écraser tout le monde pour être à la tête de tout le monde. Eh bien, Babylone n'est ni le premier ni le dernier à être comme ça. Et Dieu haït cet égoïsme ultime, fondamental, total, être vendu au mal complètement. Eh bien, il me manque un dessin, je vais y revenir. Non, voilà, qu'est-ce que... Ok. Oh, je l'ai trop vite, trop loin. Dans ce monde, il y a l'égoïsme quasiment pur, et il y a beaucoup d'évidence aussi de ceux qui se sacrifient pour la cause de la liberté, pour la bonté, eux-mêmes ne choisissent pas de profiter des gens complètement, carrément, totalement. Alors là, moi et rien que moi, Babylone ici, il n'y a pas si longtemps, il y a une 75aine d'années, les nazis envahir tout le monde, écraser tout le monde, que tout le monde nous observe, que tout le monde nous se soumette à un autre règne, un règne qu'ils voulaient, ça dure 1000 ans, hein, le Troisième Reich, ils voulaient que ça dure 1000 ans, gloire à Dieu, ça n'a duré que 6 ans, la guerre a duré 6 ans, en Allemagne, c'était déjà là depuis 15-20 ans. Les communistes, les millions de purges de personnes qui étaient dans leur chemin, on les élimine quand ils ne font pas notre affaire. Hein, sous Staline, oh là, il y a des millions. ISIS, l'État islamique, pour aujourd'hui, là, ils ont perdu de la force parce qu'on les a opposés, beaucoup de pays les ont opposés, mais oh là là, ils avaient des kilomètres carrés de règne, de terreur, de prendre les femmes et les violer à volonté, de prendre des esclaves, de tuer, de massacrer. Voilà, l'Empire ottoman, on a commencé à le voir la semaine dernière, c'est pas mal l'État islamique. Mais au lieu d'avoir été mis un peu dans leur coin, ils ont gagné beaucoup, beaucoup de territoires. Incroyable, une bonne partie de l'Europe même, l'Empire ottoman. Brigands, meurtriers, trompeurs, violeurs. Quand ils pensent, c'est difficile. Hein, pensez un peu à l'histoire, il y a une 75aine d'années, le plan maléfique incroyable que les nazis ont trouvé pour éliminer un peuple qu'ils haïssaient, le peuple d'Israël, les juifs. C'est dur d'arriver à comprendre à quel point leur machination était tellement efficace pour une élimination très rapide, très, très efficace, et se servir des juifs pour faire le travail de voler et d'enlever tous les biens de ceux qui allaient périr, ensuite de tuer, ensuite de se débarrasser des corps. Incroyable comme la machination qui avait établi l'engrenage pour réussir à faire un tel système de tuerie. C'est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir d'autres exemples qui puissent révéler une si... noirceur de cruauté. Eh bien, l'Empire ottoman serait facilement candidat d'être égal en termes de cruauté. Les Ottomans n'étaient pas nécessairement voués à la destruction totale d'un seul peuple, mais ils étaient voués à être en tête, de régner partout, forcer les gens à islamiser, à devenir musulmans, se servir de tous les infidèles comme esclaves pour faire leurs petits travaux, prendre ce qu'ils voulaient pour pouvoir avoir tous les plaisirs qui normalement devraient être des plaisirs conjugaux dans l'honneur du mariage. Eux, ils voulaient se donner toutes sortes d'esclaves pour leurs plaisirs pervertis. Mais le pire de tout ça, c'est l'engrenage qu'ils ont établi avec un système là, de prendre les enfants des pays avoisinants et d'en faire une armée qu'on appelle une armée de janissaires. Janissaires, c'est un mot turc, on ne connaît pas le turc, mais janissaires, c'est francisé, mais ça venait dire une nouvelle armée. Et au début, leurs petites armées de Turcs, c'était pas très fort. Et là, ils ont dit, on va faire deux pierres, un coup.
Deux pierres, une pierre.
Une pierre, deux coups. C'est le contraire, hein. Deux pierres, un coup. C'est moins efficace que je pense. Mais deux pierres, un pierre, un coup. Ah là là,
une pierre, deux coups.
Un pierre, deux coups. Deux pierres, un coup. Oh là là, j'ai remélangé
de nouveau.
Deux pierres.
Une pierre, deux coups.
Oh là là, ça va finir par l'avoir. Une pierre, deux coups. Alors, ils se sont dit, on va prendre les meilleurs dans la jeunesse qu'on va prendre comme esclaves et comme otages ou comme tributaires. On va prendre des enfants, les réquisitionnant tant par peuple, un enfant par 40 familles ou quelque chose, un certain nombre. On va prendre les plus forts, les plus en santé, et on va faire une armée avec un discipline terrible, parce que ces gens-là qu'on enlève, ces jeunes-là qu'on enlève et qu'on les force à islamiser, bien sûr, là, ils vont pas être loyaux naturellement, mais avec une discipline et de la torture, avec quiconque qui tombe hors de ligne de le tuer, alors les autres veulent se garder en ligne, etc. En fin de compte, une armée, parce qu'on va les entraîner, et les entraîner, et les entraîner à la guerre, puis les entraîner à obéir, puis les entraîner, et aussi faire un lavage de cerveau pour qu'ils soient comme des personnes prêtes à faire n'importe quoi, et ensuite on va les retourner contre le pays, tout ce qu'on les a pris. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pas pendant 5 ans, comme les nazis ont réussi à garder quand même 5 ans l'engrenage de l'Holocauste, jusqu'à ce qu'en fin de compte, les alliés ont réussi à mettre fin à tout cela. 500 ans! 500 ans, ce système d'engrenage de former une armée de janissaires tirés de la jeunesse des pays avoisinants pour réussir à les prendre, en faire une armée. Une armée, pas n'importe laquelle, une armée d'élite. Une armée d'élite. Et ensuite les retourner pour prendre plus d'esclaves, pour prendre plus de jeunes. Et le cycle, regardez à quel point ils ont grandi avec un tel système, avec leur armée d'élite, les janissaires. C'est dur à s'imaginer. Voler la jeunesse d'un peuple pour ensuite les détruire par cette jeunesse-là. Sans parler des plus beaux enfants, garçons, filles, molestés pour le plaisir du sultan et de ses grands. C'est horrible, absolument horrible. Et la difficulté de s'opposer à un tel engrenage, parce que dès que quelques-uns peut-être essayent de s'opposer, c'est fini, hein. Alors là, vous pouvez vous imaginer la difficulté de lutter contre un tel engrenage. Et les familles dans les pays dans lesquels ils viennent chercher les enfants, si quelqu'un s'opposait, c'était... Quelle cruauté efficace, mais cruelle. Alors, est-ce qu'on comprend que Dieu, quand il confronte Babylone, il réfère à sa sagesse et à sa science et à sa méchanceté? Ah ouais, ils se sont servis de toute leur prouesse d'intelligence, mais pour le mal. pour en tirer un engrenage efficace et se croire que, hey, on va durer longtemps. Et eux ont réussi à durer longtemps. Mais est-ce qu'on parle de l'Empire ottoman aujourd'hui? Non. Dieu a permis que ça prenne fin un jour. Et ça, c'est seulement la fin dans ce monde, mais le jugement éternel, etc. Dieu tiendra compte de tout ce qui est fait sur cette terre pour ceux qui, en fin de compte, ne se repentent pas et ne se tournent pas à Jésus-Christ. Parce que rappelons-nous, Dieu désire sauver autant les victimes, qui pourtant ne sont pas innocents dans leur propre vie, que ceux coupables d'une telle cruauté, Dieu désire sauver les pécheurs, grands et petits. Mais pour ceux qui ne se convertissent pas de leur vivant, Dieu fera justice d'une façon finale en temps et lieu. Mais donc, c'est difficile de s'opposer à une telle situation d'égoïsme, d'être vendu à un si grand égoïsme, le sultan qui était le grand pacha et tout le monde qui était en ligue avec lui, de faire un engrenage si méchant, parce que quoi, tout le monde, du côté turc, les musulmans, tiraient à leur avantage tout cela, ils gagnaient les esclaves, ils gagnaient les biens, le tribut qui leur sont donnés, autant en bien qu'en personne, ces enfants qui leur sont réquisitionnés pour les garder, pour acheter une certaine paix, pour commencer la guerre. Et même si on achète la paix, c'est pas long qu'une fois que les Turcs sentaient qu'ils avaient vraiment la possibilité d'envahir, ils n'en auraient pas la paix qu'ils avaient signée. C'était simplement un moyen de gagner du temps jusqu'à ce qu'ils réussissent à envahir les pays avoisinants. Vous remarquez que là, en 1583, on est loin de la Macédoine et de la Grèce et de l'Albanie. Et l'Albanie, c'est justement un pays qu'on va voir aujourd'hui parce que on parle de Georges Castriotti. Georges Castriotti, lui et trois autres de ses frères, avaient été donnés comme otages par son père qui avait été vaincu dans une bataille et qui, en échange donc de ne pas être tué tout le monde immédiatement, avait donné quatre de ses fils. Georges Castriotti, il était le seul qui a survécu. Ses trois frères, il les a vus violemment tués, apparemment empoisonnés. Georges Castriotti, donc, est pris dans sa jeunesse, il est forcé de devenir musulman, il est entraîné à la guerre, et lui a beaucoup de prouesse pour la guerre, il est très sage, il devient un général dans l'armée des janissaires. Et comme vous l'avez entendu, il est retourné ensuite pour aller vaincre de nouveau les pays avoisinants. Il est dans une guerre, il est dans une bataille contre la Hongrie, juste à côté de l'Albanie. Et soudainement, il sonne la retraite. Ses soldats ne comprennent pas ce grand Georges. Sonne la retraite. Lui qui était si farouche, si brave, qui en avait vaincu et tué les infidèles par milliers. Sonnez la retraite. Oui, il sonne la retraite. Parce que Georges Castriotti, il a un but. Ça fait longtemps qu'il mijote ce but. Il veut lutter contre l'Empire turc. Il veut lutter contre le sultan qui l'a volé à ses parents et qui l'a forcé à être musulman, et qui l'a molesté, etc., avec tant d'autres janissaires. Dans son cœur, il mijote le plan, quand le temps est bon, il va changer de camp, et s'opposer à tout ce système. Mais il ne pouvait pas en parler, car quelques personnes de confiance, parce qu'il savait que les Turcs étaient très, 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 très méfiants vis-à-vis des janissaires, bien sûr. Ils savaient à quel point ils avaient volé leur famille, forcé d'être musulmans, utilisé une discipline de torture pour s'assurer de leur loyauté. Ils savaient que s'ils avaient de la chance, ils tourneraient contre eux. Alors, Georges s'est démontré loyal au plus haut point pour ne pas du tout susciter le soupçon. Il est devenu général de 5 000, d'une armée de 5 000 janissaires pour faire les grandes batailles pour la Turquie. Jusqu'à ce moment-là, il voit la situation arriver. Là, il est pas mal loin du reste. Il est sur la ligne de front. Là, il sent que c'est le temps de
tourner de bord,
changer de bord. Il appelle à la retraite. 300 hommes qui lui sont les plus loyaux. Là ensuite, pendant que tous les autres perdent la bataille, parce que là c'est la retraite a semé la panique dans les, chez les musulmans, lui, donc, il sert de cette occasion pour se faufiler en douce et d'aller dans le camp des voisins. Avant d'être connu comme étant quelqu'un qui a usé de traîtrise envers son propre sultan, il est allé voir, il a fait écrire par le secrétaire du sultan qui était là avec eux à ce moment-là, il a fait écrire que tel fort soit, qui était là, un musulman qui était là pour le pour diriger le fort à telle place, il a dit commande que ce dirigeant musulman me cède la place au nom du sultan. C'est signé, sachant que son secret, si c'est connu, donc il élimine ce secrétaire qui vient d'écrire cette lettre. Il prend la lettre et il prend donc le fort sans combat. L'autre dirigeant musulman, lui, cède la place, pensant que ça vient du sultan. Et là, ensuite, là, il démontre ses couleurs. Maintenant, il va s'opposer. Et pour le reste de sa vie, donc, là, il rallie les Albanais. Pour dire, c'est fini le temps d'être chacun pour soi. On doit se rallier ensemble, s'unir pour contrer cette menace et ces Turcs. Il savait qu'en n'étant plus vassal de la Turquie, en ne donnant plus le tribut de biens et de jeunes enfants, là c'est une armée énorme qui veut s'attirer, mais il se prépare à la guerre. Et d'un courage incroyable, Georges Castradi, qu'on appelle Skanderbeg, il, avec ses 20 000 hommes, réussit à s'opposer aux 100 000, 200 000 Turcs qui venaient contre lui. Victoire après victoire, par des tactiques et des stratégies quelque peu inorthodoxes, mais dans la situation, il n'avait pas le choix que d'utiliser des techniques de guérilla, etc. Mais tout ça pour dire, lui qui avait grandi comme ça, comme janissaire, qui avait connu, c'était quoi, à quel point, c'est, il est un égoïsme pur et simple, qui veut complètement contrôler moi et rien que moi, pour la cause de sa famille, pour la cause de son peuple, il a réussi à se tourner contre cela. Quel grand exemple, ce Georges Castriotti. Et là, je l'ai passé devant plusieurs fois, mais le voilà. Il est mort de vieillesse. Sauf que, tristement, le peuple albanais, ayant lutté contre les Turcs si longtemps, il restait très peu de ressources et, vous ne pouvez pas vous imaginer, les pays avoisinants, chacun regardait à ses propres affaires. Et les Turcs ensuite, à la mort de Castriati, sont rentrés et ont usé de cruauté incroyable pour se venger de Castriati qui les avait humiliés pendant des décennies. L'Albanie est encore aujourd'hui à plus de 50% musulmans parce qu'ils avaient forcé les gens à islamiser. Ils les avaient dominés si longtemps. Encore aujourd'hui, le peuple albanais en ressent la suite de cela. Ça, c'est il y a 500 ans. Imaginez donc l'emprise que les musulmans ont eue sur l'Albanie. Mais de son vivant, il avait défendu son peuple contre les Turcs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit tout ça? Parce que justement, dans ce monde, on voit, il y a beaucoup d'évidence, j'en ai nommé plusieurs exemples, il y en a encore aujourd'hui, la Russie qui envahit et qui utilise toutes sortes de méthodes et toutes sortes de choses pour prendre tout ce qu'ils peuvent de l'Ukraine. Et d'ailleurs, je lis des articles en ce moment, les enfants qu'ils ont pris de force il y a quelques années, ben là, ils les entraînent à se battre pour la Russie. C'est peut-être pas dans le même degré, mais c'est une direction d'égoïsme de prendre des enfants d'un peuple pour ensuite s'en servir après les avoir lavé les cerveaux et pouvoir les forcer, etc., à commencer à se battre pour contre leur propre pays, contre leurs ancêtres. Mais regardez, j'aborde ça parce qu'on doit quand même considérer ces choses-là dans le contexte de l'éternité. les personnes qui ont peut-être usé le sacrifice de leur vivant. Georges Castriotti est un exemple, on l'a vu la semaine dernière, Val III, Dracula entre guillemets, était un autre exemple qui s'est soulevé contre l'oppression des Ottomans et elle s'est servi de leurs propres moyens de terroriser pour les terroriser, pour les faire fuir de leur pays, etc. Et je ne suis pas en train de dire que toutes ces techniques ont été bonnes, mais tout ça pour dire qu'il y en a eu d'autres à travers le monde qui ont lutté contre l'oppression. On pense au général Eisenhower qui a aidé au Nouveau Front reprendre l'Europe de l'Ouest, etc. Est-ce que ces personnes ont pensé par rapport à l'éternité? Est-ce qu'ils ont gagné leur ciel à cause de tout le sacrifice qu'ils ont fait pour la liberté? Ces gens-là, peut-être, ils ont appliqué les bons principes dans ce monde, les principes de liberté, puis contre le mal et contre l'égoïsme. Mais ils n'ont pas appliqué les mêmes principes par rapport à l'éternité. Ils se sont fiés, peut-être, ou ils se fient sur leur bonté relative. Leur sacrifice en opposition au pur égoïsme contre lequel ils font face. Ils se fient que ce qui vaut le plus, la liberté dans ce monde, ça c'est l'ultime prix pour lequel il faut se battre. Là encore, ce n'est pas le plus important. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert dans ce contexte-là pour l'un d'entre nous de se lever comme un Georges Castriotti et dire « Moi, je vais me battre pour la liberté de mon peuple contre l'oppresseur » si ensuite le peuple qu'on défend perd son âme et si nous-mêmes aussi on perd notre âme. Dans ce contexte-là, la Bible nous montre que ce n'est pas la liberté dans ce monde qui est le plus important. Plutôt que le plus important, c'est là où l'on passera l'éternité. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est le sujet dont on devrait se soucier le plus. De plus, la Bible nous montre aussi que l'égoïsme de fond, manifesté par des événements dans l'histoire qui nous dépassent en termes d'ampleur, de cruauté, eh bien, cette même sorte d'égoïsme est dans chacun de nous. On n'est peut-être pas la pire expression de cet égoïsme, mais cette racine est là. Et on ne va peut-être pas connaître l'ampleur de la démonstration de cet égoïsme-là comme les Ottomans ou contre les nazis. Mais la méchanceté à notre voisin, la méchanceté dans la famille, c'est venu aussi de notre cœur. Rendre le mal pour le bien. On l'a tous démontré tôt ou tard. Jérémie 17, 9, Dieu nous dit, regarde bien, quel est le fondement de tout le monde ici, le cœur de chacun. Jérémie 17, 9, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et donc, pour le non-chrétien, rappelons-nous, pour tous les non-chrétiens dans ce monde, qu'ils aillent plus du côté de sacrifice, peut-être qu'ils sont altruistes, peut-être qu'ils sont prêts à se donner pour aider le pauvre à côté de lui, qu'ils aillent du côté égoïste, s'adonner aux vices, profiter des gens, et passe-toi, t'es dans mon chemin. Mais tous sont esclaves du péché, sont perdus. Que ce soit l'explicitement égocentrique, pur et pas pur, je dis pur, mais je ne sais pas si personne n'est arrivé à une pureté, que ce soit le meilleur d'entre nous. Parce que le meilleur d'entre nous, dans ce monde, et qui n'applique pas ces principes-là à l'éternité pour voir son besoin et celui qui apporte le sacrifice ultime, Jésus. Celui qui n'applique pas toutes ces choses à l'éternité et qui se bat peut-être corps et âme pour la liberté dans ce monde, il tombe court de montrer aux gens leurs vrais besoins. Et quand, là j'ai résumé surtout le début de la vie de Skanderbeg, j'ai pas résumé les 20 ans, 30 ans, ce qu'il luttait pour la liberté, mais combien de fois il devait lutter pour ceux qui étaient derrière lui, mais qui ont usé de traîtrise. Et qui ont pensé tirer avantage d'avoir quelque chose des Turcs. Eh bien, n'est-ce pas une traîtrise si on prenait la vérité, mais qu'on dise non, en fin de compte, le plus important, c'est ce monde. Et le sacrifice de Christ, c'est pas le plus important. Et peut-être que bien de ces gens-là pourraient se dire, après tout, on a promis. Mais regardez le sacrifice qu'on a fait. Ne mériterons-nous pas notre bonheur éternel, notre félicité, notre ciel, avec tout ce qu'on a fait. Et qui, en fin de compte, fout au pied ce que Christ a fait. Lui, l'ultime sacrifice. Donc, non pas qu'on ne peut pas apprécier ceux qui se sont élevés pour la liberté à travers les âges. Mais on doit prendre un recul et réaliser que même un tel dévouement à la liberté, si ce n'est que dans ce monde, ça coûte court aux vrais besoins de l'homme. Et c'est là que ceux contre quoi ils luttent, ils sont pris en fin de compte par la même chose, cet égoïsme de fond. C'est pour ça que tous les perdus sont esclaves de cet égoïsme de fond. Pour celui qui se convertit à Jésus, il y a un sacrifice fondamental de réaliser que notre vie qui est caractérisée par l'esclavage à l'égoïsme de fond, même si elle n'est peut-être pas l'expression la pire qu'elle pourrait être, mais on sait qu'on est quand même pris d'esclavage par cet égoïsme, on a un choix à faire. Tout comme les gens à travers les histoires, comme on a parlé la semaine dernière, Val III, Dracula, comme aujourd'hui on a parlé un peu de Skanderbeg, Georges Castelty, les gens avaient un choix à faire à un moment donné. Est-ce qu'ils allaient se ranger avec Castelty et risquer leur vie en s'opposant aux Turcs, ou est-ce que pour le moment ils voient plus d'avantage à amadouer, puis à faire le gentil, puis trouver une certaine paix avec les Turcs? Ils avaient un choix à faire. Ben, fondamentalement, on a chacun un choix à faire pour ceux d'entre nous qui ne l'avons pas encore fait. Paul en parle dans Philippiens chapitre 3. Regardez ce choix fondamental que Paul devait faire. Il devait accepter le sacrifice de se convertir à Jésus. Philippiens, actuellement, on va y arriver bientôt. Mais là, on va juste le voir un peu. Philippiens chapitre 3, verset 4, page 895. Et Paul dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. La chair, c'est ce qu'il était naturellement, la manière qu'il est né, avec ses prouesses naturelles, avec son héritage naturel. Il dit, moi, j'aurais encore plus à me confiance en la chair. Si quelqu'un autre pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Hein? Il avait un curriculum vitae. Hein? Il avait ses ancêtres étaient ceux qui ça devait être. Lui-même avait été bien élevé et lui-même était bien zélé dans la suite de la tradition juive et pharisienne qu'il avait, avec laquelle il est grandi. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il n'a pas juste renoncé à ce qui lui avait été, ce que lui avait essayé de faire de bien pour Dieu. Hein, tout c'est un petit peu ses prouesses spirituelles, tout son héritage spirituel. Regarde Dieu, je suis une bonne personne, n'est-ce pas? Non. Je réalise tout ça, ça vaut rien. Et il dit même, je regarde toute chose comme une perte. Ce soir, l'ambition, j'aimerais faire ceci, si dans la vie, j'aimerais être marié à telle personne, dans la vie, j'aimerais faire ci, j'aimerais ça. Je veux vivre et avoir la vie. Tout ça, c'est une perte. Pourquoi? Parce que dans ce monde, ça ne dure pas. Il y a l'éternité. Et lui en lui-même dira, si je gagne le monde entier, que je perds mon âme. Je me cache. Alors là, il a dit, je regarde tout comme une perte. Et je les regarde comme de la boue, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment je suis une bonne personne. Regarde quand je vais à l'église à chaque semaine. Que je lis ma Bible, j'aide mon voisin, etc. On peut en mettre pour soi-même. Il dit non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Afin de connaître Christ. Alors, Paul, il a fait ce sacrifice. Il était prêt à tout perdre parce qu'il voulait le salut en Jésus. C'est seulement le sacrifice de Jésus qui pouvait lui donner donc cette justice à l'égard de tout pour pouvoir entrer au ciel. Jésus en parle de ce sacrifice fondamental. Regardez aussi dans Luc 14, 26. Luc 14, 26. Jésus dit qu'il y a un choix fondamental. Luc 14, 26 et 27. Il se retourna et leur dit, page 794. Il se retourna et il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Il y a un choix fondamental. Et je me rappelle de personnes qui, sentant la pression de leur famille, leur disant, « Hey, arrête d'inviter le pasteur à parler de Jésus, arrête, redonne-lui toutes ses affaires, autrement, on ne veut plus rien savoir de toi, papa. » Et j'ai senti l'hésitation de dire, « mais il ne fait rien de mal, il me montre la Bible. Et... » Papa, dis-lui de partir et de ne plus revenir. J'étais là, dans des occasions comme ça, où la lourdeur du choix se faisait ressentir, et en fin de compte, le monsieur dit, monsieur, ne revenez plus. Parce qu'il savait qu'il allait perdre sa fille qui vivait à côté. Oh là, il ne voulait pas que sa fille soit fâchée avec lui. Jésus dit, c'est simple, si vous ne me préférez pas, à mon père, à ma mère, je me rappelle une jeune femme, il y a longtemps, ses parents ont dit, si tu dis que tu es devenu sauvé, mais là, si tu te fais baptiser, là, on comprend, là, vraiment, tu tournes ton dos à nous autres, et si tu te fais baptiser, on ne veut plus rien savoir de toi, tu ne reviens plus ici. On te chasse la maison. Elle avait 18 ans. Elle dit, je me suis converti à Jésus, mais Jésus me commande de me faire baptiser. Eh bien, c'est lui que je veux servir. Eh bien, papa, maman, je vous aime, mais Jésus vient en premier, parce que c'est lui qui est mon sauveur, autrement, je ne sais plus. Je l'ai accepté comme mon sauveur. Et ses parents ils ont pris toutes ses affaires, claqué la porte. Elle a fait son choix. Un sacrifice. Mais il dit même sa propre vie. Il y en a qui, ah, oh, ma carrière, c'est le plus important. Accepter Christ, là, je vais probablement perdre mon travail ou je vais perdre l'opportunité de peut-être m'avancer dans ma carrière parce que je ne prends pas la carrière la plus légitime, mais enfin, ma carrière me tient le plus à cœur. Je ne vais pas accepter. Jésus a dit qu'on avait un choix fondamental à faire. Dans ce sens-là de sacrifice, c'est-à-dire l'éternité est plus importante que la vie sur cette terre et de jouir de ses biens. Jean 12, 25, il dit la même chose. Jésus savait lui-même son sacrifice qu'il devait faire et il ne le regardait pas avec peine, il le regardait avec honneur et avec... le sens de devoir et pour la joie qui lui était réservée, même l'Hébreu nous dit, ben, Jésus regardait à sa mort, c'était pas une mort qui allait être facile, anodine, non, c'était une mort cruelle, mais c'était sa gloire de donner sa vie pour que d'autres puissent être sauvés, pour que d'autres humains puissent être au ciel. Et dans Jean 12, il applique le principe que lui-même allait passer par, lui-même qui allait donner sa vie en sacrifice, là il l'applique à tout le monde. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ensuite, il l'applique. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là, on va voir qu'il y a un choix fondamental à faire, accepter Christ ou pas, et on comprend que quand on accepte vraiment Jésus-Christ, ça, on risque de perdre des amis, on risque de perdre la famille, on risque de perdre un enfant, on risque de perdre plein de choses, mais alors, le plus important, c'est Jésus-Christ pour l'éternité. Si on fait ce choix, amen. Mais ça ne veut pas dire que la lutte est finie. Parce que pour le chrétien, il y a ensuite, pour le service, ces principes qui sont appliqués. Le même, et ça maintenant d'une façon, un égoïsme relatif. Là, le vrai chrétien, il ne va pas se donner à ce qui est explicitement mal. 1 Jean 3 le dit. 1 Jean 3 nous dit le. Peut-être que je vais continuer la semaine prochaine. Je vous résume la chose et ensuite on va voir la semaine prochaine plus les exemples. Mais la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Il l'explique un peu plus loin. C'est pas, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le chrétien, il va renoncer à pratiquer le péché. Mais pour son service, il y aura des choses, des questions, des opportunités qui ne sont pas nécessairement continuées explicitement dans le mal, mais là qui vont démontrer à quel point est-ce qu'il peut vraiment sacrifier ce qui est à lui et se rendre utile à la cause de Christ ou être égoïste, relativement parlant. Pas du tout d'un égoïsme à la ottomane. Mais le principe est le même. Et c'est là que Paul l'applique dans le contexte de Philippiens 2. Il parle, comme on a lu au début, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Parce qu'il parle de gens qui cherchaient leurs propres intérêts au point de tuer, de voler, de molester et de prendre tout ce qu'il peut avoir, comme certains ont démontré à la parole. Non, il ne parle pas de ce niveau-là, la chose. Mais il parle, hey, c'est mon jour d'aller jouer au golf. Voilà, quelqu'un me demande de l'aide, j'aurai l'occasion d'aller prêcher l'évangile. Il n'y a rien de mal de jouer au golf, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça donnait à l'Holocauste, ce n'est pas comme aller piller le pays voisin. Moi, je joue au golf aujourd'hui. Mais les conséquences, les ramifications de ce genre d'égoïsme, qui sont peut-être pas au même degré de ce qu'on parle, mais pour Paul, il dit, pour ceux qui ont fait le sacrifice de vraiment se convertir à Jésus-Christ, ne nous assoyons pas sur le laurier pour dire, ok, maintenant, je suis converti, et je ne m'adonne pas à ce qui est explicitement mal. Mais quand même, je ne veux pas trop me donner non plus, parce que je veux quand même profiter un peu de cette vie. Et dit, ce degré d'égoïsme, ce n'est pas la pensée de Jésus-Christ. Et ça n'apporte pas de bons fruits. Mais quand un chrétien qui non seulement s'est converti, mais ensuite aussi dans sa vie, dans ses choix, ce n'est pas ses propres préférences qu'il veut suivre. C'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment est-ce que je peux faire avancer ton nom? Quelle est la cause que tu veux que je développe pour faire connaître ton évangile à d'autres? Cette vie de sacrifice va connaître beaucoup de fruits. Cette semaine, la semaine prochaine, on va débloquer beaucoup plus cette dernière partie avec des exemples, des passages, mais de faire la différence du type d'égoïsme. Qu'en est-il de vous, chers? Est-ce que d'abord, vous avez vraiment accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? En renonçant à tout ce que vous pensiez être bon, Dieu, regarde, je suis plus une bonne personne, je ne suis pas aussi mauvais que plein d'autres gens. Ou, regarde, Dieu, le plus important pour moi, c'est de me convertir parce que je sais que retenir ce que j'ai dans cette vie, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait ce choix fondamental? Sinon, venez à Jésus. que pour ceux d'entre nous qui sommes sauvés, est-ce que vraiment on s'adonne à sacrifier nos vies en pratique pour la cause de l'Évangile? Seigneur Dieu, merci pour ce qu'on a pu voir de ta parole. Seigneur Dieu, tu haïs le mal, tu confrontes le mal et tu dis que l'égoïsme, ça va venir être jugé un jour, Seigneur Dieu, comme tu l'as dit à Babylone. Et Seigneur, tu avertis tous, Seigneur Dieu, que ce cœur méchant qui est pris d'égoïsme fondamentalement au cœur, Seigneur Dieu, on a tous besoin de s'en repentir pour se tourner à Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie en sacrifice fondamental pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Et ensuite, qu'on puisse appliquer ces principes à nos vies, à la lumière de l'éternité, pour être un outil dans ta main, pour faire connaître la vérité, l'amour, la haine du mal, Seigneur Dieu, et la conversion, le besoin de se convertir à tous, Seigneur Dieu. On te prie donc que tu puisses toucher les cœurs de chacun, selon le besoin de chacun, au nom de Jésus.